Nous allons procéder à l'explication orale linéaire du texte d'oral numéro 1, extrait du roman Gargantua de François Rabelais, plus précisément du chapitre 23 de ce texte que Rabelais a publié en 1534. Nous allons éclairer ce passage de la lecture des chapitres 13 à 23 du roman dans lesquels Rabelais s'attache à montrer comment se passe l'éducation de ce jeune prince géant. Au chapitre 13, Grangousier, qui revient de guerre, découvre que son fils a du génie, puisqu'il a découvert tout seul quel était le meilleur torche-cul, un poussin, un oison. Il confie donc son éducation au chapitre 14 à un maître sophiste qui fait étudier l'enfant pendant plus de 50 ans. Au bout de ces 50 ans, au chapitre 15, Grangousier découvre que son fils ne sait rien, qu'il est devenu fou, niais et ignorant, et qu'il est incapable de rivaliser avec un jeune homme éduqué par les humanistes. Il donne donc à Gargantua un nouveau maître humaniste, Ponocrate, qui observe au chapitre 21 les mauvaises habitudes de son élève avant de commencer à lui faire découvrir une éducation proprement humaniste dans ce chapitre 23. Nous allons procéder à la lecture du texte. Ponocrate soumit son élève à un tel rythme d'études qu'il ne perdait pas une seule heure de la journée, mais consacrait tout son temps aux lettres et au savoir d'un honnête homme. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. Cependant qu'on le frictionnait, il lui était lu quelques pages de la Divine Écriture, à voix haute et claire, et une prononciation appropriée au sens. Selon le propos et l'argument de cette leçon, souvent, il en venait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la lecture démontrait la majesté et le jugement merveilleux. Puis, il allait au lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur lui répétait ce qui avait été lu, lui expliquant les points les plus obscurs et les plus difficiles. En revenant, il considérait l'état du ciel, observant s'il était comme il l'avait noté le soir précédent et en quel signe entrait le soleil ainsi que la lune pour la nouvelle journée. Cela fait, il était habillé, baigné, coiffé, paré et parfumé et, pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur et s'appuyait sur la leçon pour étudier des cas pratiques concernant la condition humaine sur lesquels il s'étendait parfois 2 ou 3 heures. Mais il cessait d'ordinaire dès qu'ils étaient entièrement habillés. Puis pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Cela fait, il sortait dehors, conférant toujours du propos de la lecture et allait faire du sport, au braque ou dans les prés, où il jouait à la balle, à la paume, à la pile trigone, s'exerçant élégamment les corps comme il s'était auparavant exercé les âmes. Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie quand il leur plaisait, et cessaient ordinairement lorsque la sueur trempait leur corps ou qu'ils étaient là. Ils étaient alors très bien essuyés et frottés, et ils changeaient leur chemise, et se promenant doucement, allaient voir si le dîner était prêt. En attendant, ils récitaient clairement et avec éloquence quelques sentences retenues de la leçon. Pour présenter rapidement le contenu de ce texte, on peut constater qu'il s'agit de la journée d'études, de l'emploi du temps de Gargantua tout au long d'une journée d'études représentative de cette éducation humaniste, que le rythme de cet apprentissage est extrêmement intense, que tout instant est utilisé pour apprendre, comprendre et mettre en application ses savoirs avec d'autres, tout en n'oubliant jamais en même temps d'exercer son corps. Pour ce qui est du registre de ce texte, on note qu'on n'y trouve pas le registre comique bas, grossier, que Rabelais revendique dans son prologue, mais qu'ici le langage est uniformément soutenu et élevé. Pour ce qui est des mouvements du texte, on peut en distinguer 3. Le premier des lignes 1 à 10 est consacré au début de la journée d'études et placé sous le signe des Écritures saintes, et du ciel. Le second mouvement des lignes 11 à 18 décrit la suite de la matinée qui est consacrée aux sciences de l'humain et à l'entraînement du corps. Enfin, un dernier mouvement des lignes 19 à 22 insiste sur la liberté, le plaisir, la mesure, la politesse dans toutes les activités menées par Gargantua et ses compagnons. Notre problématique s'attachera à montrer que l'éducation humaniste s'adresse bien ici à toutes les dimensions de l'humain et réconcilie le corps, l'âme et l'esprit, comme le veut la devise de l'humanisme. Nous verrons plus particulièrement que l'éducation humaniste demande un engagement total et que, d'autre part, elle repose sur l'échange et l'association de toutes les qualités humaines. Pour commencer par l'étude du premier mouvement du texte, les lignes 1 à 6, lignes 1 à 10, pardon, on constate que dès le commencement de cette journée, l'usage du temps est intensif, donc il est question de rythme de l'étude et de ne pas perdre un seul moment, une seule heure de la journée à la ligne 1. Le mot temps revient encore à la ligne 2, tout le temps qui est consacré, donc c'est un mot fort à dimension religieuse, qui est mis au service de l'étude des lettres. Ce sont bien les remarques de temps, les précisions chronologiques qui vont effectivement servir de repère à la description de toute cette journée qu'on va retrouver tout au long du texte, hein, au-delà de ce premier mouvement. Ici, on a se levé très, très tôt le matin, à 4h du matin. Le fait que Gargantua accomplit généralement deux activités en même temps. Là, on trouve cette idée à la ligne 3, avec cependant qu'on le frictionnait, il lui était lu quelques pages, donc on s'occupe de son corps, du bien-être de son corps, de sa santé, et en même temps d'alimenter son intelligence avec la lecture de la Bible. S'ensuit la sortie hygiénique aux toilettes à la ligne 7, et là, de la même façon, deux activités lui sont proposées pendant qu'il prend soin de son corps, d'expulser les restes de son alimentation. Son précepteur lui répète à la ligne 8 la leçon et lui donne d'autres explications plus approfondies, toujours à la ligne 8. Et le retour des toilettes à la ligne 9 donne encore lieu à une nouvelle activité scientifique, une activité de savoir. Il s'agit d'observer le ciel à la ligne 9 et y compris de prendre des notes. Il l'avait noté ligne 9, et de comparer les notes d'un soir à l'autre pour être sensible au déplacement, aux trajectoires des astres dans le ciel. Donc on va retrouver ce rythme intensif tout au long du texte, et ainsi que cette pratique de faire plusieurs choses à la fois. Ce qu'on peut noter dans ce premier mouvement, c'est la référence tout d'abord aux lettres et au savoir d'un honnête homme à la ligne 2. Il s'agit bien là d'une référence aux matières, au corpus de matières enseigné par l'université médiévale et que reprend l'humanisme, les trois matières littéraires, dont la rhétorique, et les quatre matières scientifiques, dont on retrouve ici l'astronomie avec les mathématiques, mais surtout avec cette idée d'honnêteté, c'est-à-dire que ce savoir doit être mis au service de l'humain, honnête homme, et au service du bien. L'autre remarque à faire, c'est considérant la manière dont Gargantua découvre l'écriture sainte, la Bible, c'est que il n'y a pas simplement une dimension de lecture vide ou de répétition de mots vides, comme on l'a vu dans la première éducation sophiste de Gargantua, où il priait sans savoir ce qu'il disait. Là, tout est fait pour qu'il comprenne avec cette idée de voix haute et claire à la ligne 4, de prononciation appropriée au sens, donc ce mot sens qui est essentiel, il faut qu'il comprenne, il faut que cela devienne un élément de sa connaissance et de son intelligence. Mais l'autre aspect très important, c'est que ce n'est pas juste un savoir qu'il engrange, mais que cette lecture intellectuelle l'amène à une véritable émotion religieuse. Donc on passe au domaine de l'âme, puisqu'il est bouleversé par cette lecture et qu'elle l'amène, donc c'est l'expression « il en venait à » la ligne 5, amène à une pratique de dialogue ému avec Dieu, donc adorer, prier et supplier, donc ce dialogue direct est donc une vraie activité spirituelle et non plus simplement intellectuelle. On note d'ailleurs l'adjectif merveilleux qui montre l'émotion et l'admiration, l'engagement émotionnel de Gargantua dans cette pratique. La fin de ce premier mouvement voit une fois encore, comme on a vu, le frictionnement du corps qui allait avec la lecture de la Bible, là pendant qu'il est aux toilettes, dont son précepteur lui explique des parties plus difficiles, comme si sur cet axe du bas vers le haut, l'élève se purifie, donc expulse de son corps les matières grossières, et dans un but d'hygiène, mais aussi en même temps, son esprit est rempli de matière beaucoup plus subtile et noble. Enfin, l'importance donnée à l'expérience, à l'expérimentation, comme dans une vraie démarche scientifique, apparaît clairement aux lignes 9 et 10, où on voit Gargantua se livrer à de véritables observations astronomiques tout à fait rigoureuses. On le voit, il fait encore nuit à la fin de cette première partie de la journée d'études de Gargantua, et nous allons à présent passer au second mouvement du texte, où cette fois-ci il va retourner à l'intérieur et où on a une séquence d'études, donc des lignes 11 à 15, où les soins, la recherche de la beauté du corps, et non plus simplement de sa santé, en même temps que la poursuite des apprentissages et de la mémorisation des leçons est présentée. L'accumulation, la liste accumulative d'adjectifs habillés, peignés, participe passé habillé, peigné, coiffé, paré et parfumé, souligne fortement l'importance de cette recherche de sociabilité, d'aspect agréable, de la mention des bijoux, de la parure, de l'élégance de la coiffure, de la beauté des cheveux, la coiffure, le peigne. On se souvient que dans son éducation sophiste, Gargantua ne se lavait pas, ne se peignait pas. Et là, en plus, il y a cette notion du parfum qui est particulièrement destiné à rendre sa présence agréable aux autres. Et effectivement, cette dimension collective et de sociabilité, elle est très présente dans ce mouvement, puisqu'on voit apparaître, on voit Gargantua entouré de compagnons, puisque on lui répète à la ligne 11, donc d'autres, l'aide à apprendre. Et à la ligne 13, quand il s'agit de poursuivre la conversation, la réflexion sur le sujet d'étude, il y a bien un pluriel, un pronom pluriel. Il s'étendait donc tous, parfois 2 ou 3 heures, et encore ce pluriel, il, à la ligne 14, il cessait d'ordinaire dès qu'ils étaient entièrement habillés. Donc c'est tout un groupe de jeunes hommes qui apprend ensemble. Et l'autre fait notable, l'autre information très importante dans cette seconde partie, c'est que comme on a vu Gargantua écouter une leçon sur la Bible et puis se mettre à prier, donc l'émotion religieuse, là on voit de même qu'on passe d'un savoir abstrait, une leçon qu'il apprend par cœur, ligne 12, quelque chose de beaucoup plus appliqué, puisqu'il s'agit d'étudier des cas pratiques à la ligne 13. Et en plus, on retrouve cet intérêt fort de l'humanisme pour tout ce qui peut aider l'homme à être plus heureux, puisqu'il s'agit de cas pratiques concernant la condition humaine à la ligne 13. Là encore, usage intensif du temps, puisque c'est 2 ou 3 heures, ligne 13 et 14, qui sont consacrés à ces nouveaux sujets d'études qui semblent être de la philosophie morale. Et avec le Le troisième mouvement, on a encore 3 heures de lecture qui s'ajoutent aux heures déjà passées depuis 4 heures du matin. Donc on arrive au début d'une matinée normale, sans doute vers 8 heures du matin. Et là vient le temps du sport et l'exercice du corps, puisque les jeunes hommes sortent à l'extérieur faire du sport à la ligne 16, dans les prés, donc dans la nature. Et il y a une mention assez précise des différents jeux de ballon auxquels ils peuvent s'exercer. Mais là, l'élément le plus important est celui du parallélisme qui est fait entre la beauté du travail des corps, ligne 17, s'exercer élégamment les corps, avec cette recherche de beauté et d'élévation dans l'entraînement de l'esprit et de l'âme, hein, ligne 17-18, il s'exerce les corps comme il s'était auparavant exercé les âmes. Donc cette recherche d'harmonie entre toutes les parties de l'être humain, âme, corps, esprit, est bien mise en lumière dans ce passage. Enfin, les dernières lignes du texte, 19 à 23, nous donnent une image globale frappante de la personne qui est devenue Gargantua, d'abord en mettant au centre de cette activité, non plus en travail très, très intellectuel, intense, mais le jeu, le plaisir et la liberté, hein, liberté ligne 19, quand il leur plaisait, ligne 19, et aussi la mesure, le respect des limites que le corps impose à l'esprit, puisqu'il faut cesser quand la sueur trempe les corps à la ligne 20, ou que la fatigue, elles étaient là, qui veut dire fatiguée, doit mettre un terme à l'activité physique. Donc là, toujours cette importance accordée à l'hygiène et au confort, à la santé du corps, hein, puisqu'on a encore cette notation comme pour à la ligne 11, habillé, peigné, coiffé, paré, parfumé. Donc on rétablit l'élégance, la propreté, donc ils sont essuyés, frottés à la ligne 21, on change la chemise, toujours à la ligne 21, là, on peut souligner la progression qu'a connue Gargantua depuis sa gloutonnerie au chapitre 21, où il n'étudiait jamais, mais ne pensait qu'à manger et à boire. Là, après ces quelques 10 heures de travail, il est capable encore de se promener doucement, donc d'être patient, d'attendre sans appétit féroce, hein, à la ligne 21, l'arrivée du dîner, hein, le dîner qui est mentionné donc à la ligne 22. Et là encore, il est suffisamment encore disponible contrôlant ses appétits pour continuer son apprentissage, hein, ligne 22-23, toujours avec d'autres, hein, il récitait au pluriel, clairement, toujours cette recherche du sens, de la compréhension, de l'échange possible, hein, du dialogue clair avec les autres, et cette recherche de sagesse, hein, les sentences qui sont des leçons morales, toujours conformes à ce désir de l'humanisme de faire l'homme plus heureux, plus moral, et de mettre cette science au service du bien. Donc on voit bien en conclusion combien l'éducation humaniste a radicalement modifier les mauvaises habitudes du jeune prince Gargantua. Il est sociable, il n'étudie plus seul, il est propre, il fait attention à la santé de son corps, à la beauté de son corps, et tout fonctionne en harmonie. Lire un texte, c'est aussi être ému et vouloir s'élever, se tourner vers une spiritualité. Il applique les leçons à la connaissance pratique, à des cas pratiques de la condition humaine. On voit bien donc comment cet apprentissage humanisme veut faire du jeune prince un homme complet.